entre les musulmans et au Kassai oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. C'est une démocratie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Bruxelles, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, appelle Kinshasa et Kigali au dialogue sur la situation à l'Est. Et de son côté, la Voix des Sans-Voix, l'ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo, invite la communauté internationale à condamner directement le Rwanda pour son rôle dans le soutien de Mita. Par ailleurs, la situation sécuritaire sur les terrains est très préoccupante et quelques territoires sont sous contrôle des milices de M23 et autres groupes armés. Comment réagissez-vous face à cette position de la Belgique privilégiant avant tout le dialogue comme voie de sortie de cette crise à l'Est? Notre standard est ouvert, le 081-890-6315, et inscrivez-vous pour participer à cet échange et partage en nous proposant vos critiques, questions et préoccupations à pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de réagir en postant bien entendu vos commentaires sur notre page Facebook. Nous sommes très heureux alors de partager ce moment de réflexion avec vous. Kiki Poutou, Pierrot et la Mégie Alain Goy réalisent cette émission et J.R. Mungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Ngata. À tout de suite.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Professeur Dominique Welt, vous êtes le conseiller scientifique au Centre d'appui en politologie de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Vous êtes notre invité pour débattre de cette question sur l'appel de Bruxelles au dialogue. Nous vous avons en ligne. Professeur Dominique, bonjour.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Nous allons bien.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, nous rappelons, nous signalons les auditeurs que vous intervenez en direct de Liège, où vous êtes à présent. Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a renouvelé la semaine dernière son appel au dialogue accru entre Kinshasa et Kigali pour résoudre les problèmes de violence récurrents dans l'Est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas là une façon de confirmer encore l'implication du Rwanda dans les conflits à l'Est?
Ah, je pense qu'il est clair que, à partir du moment où M. Reynders, en effet, a fait offre de propositions pour renforcer le dialogue entre Kigali et Kinshasa, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais cela démontre, évidemment, comme le Conseil de sécurité l'a dit de toute façon lui aussi, cela démontre que la Belgique reconnaît en effet que le Rwanda est en tout cas impliqué, alors il faut savoir à quel niveau et de quelle manière, mais en tout cas impliqué dans les mouvements rebelles qui ont déserté les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, oui, c'est une forme implicite en tout cas de reconnaître que le Rwanda est impliqué dans ce qui se passe actuellement dans la déstabilisation à l'est de la RDC.
Oui, professeur Dominique, alors comment jugez-vous des propos de Didier Reynders qui dit, je cite, si le Rwanda dit ne pas être une partie du problème, il lui appartient maintenant d'être une partie de la solution, de faire en sorte que l'on mette fin sur le terrain à la rébellion et puis travailler à l'avenir, fin de citation.
Alors, je pense que M. Reynders, évidemment, a utilisé des termes diplomatiques qui lui reviennent et qui sont tout à fait normaux dans la bouche d'un ministre des Affaires étrangères, surtout d'un pays comme la Belgique, qui est quand même fort concerné par ce qui se passe en Afrique centrale. Et maintenant, bien entendu, que si le Rwanda reconnaît qu'il n'a absolument aucune implication dans les événements qui se passent à l'est du Congo, il n'empêche que, en effet, il doit pouvoir participer à trouver une solution pour une paix durable et un arrêt, évidemment, des violences et des combats dans la région entre les rebelles et les forces armées de la RDC.
Radio Capi accorde la parole aux différents auditeurs qui sont avec nous, surtout pour débattre de cette question dans cet échange et partage de 57 minutes interactives. Nous avons en ligne Cosma qui est à Kisangani. Cosma, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être de notre. Cosma, comment réagissez-vous?
Bon, écoutez, je suis un peu stupéfait de ces propositions. Bon, on peut toutefois comprendre parce que chaque fois qu'on est folle et on vous propose tout ce que vous voulez ou tout ce que vous ne voulez pas. Bon, la proposition de la Belgique peut être bonne. Bon, quand on s'en est autour d'une table avec les Rwandais et parler de ce. Bon, je me demande, ça sera alors sur quel objet ou bien on peut se mettre autour d'une table avec les Rwandais. Si le problème de. Et un des droits, et mais chaque fois ils nous disent qu'ils ont écouté que le Congolais qui s'est entré. Est-ce qu'on a déjà des preuves pour dire qu'ils ont écouté, on peut directement accuser le Rwanda. Avec l'action, bon, la proposition des chasseurs des droits de l'homme, c'est aussi une bonne proposition. Mais écoutez, il faut tout réunir avant de directement de écouter quelque chose, bien de soupçonner quelque de quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aller directement accuser le Rwanda devant la communauté internationale, pendant qu'on n'a pas tant de preuves. Si on peut parler des mouvements de M23, aujourd'hui vous connaissez vous-même les journalistes, sinon, Routour et d'autres villages là, sont déjà tombés, ça se connaît. Alors, si à tout moment nous serons comme des petits bébés et qu'on nous propose tout, à ce qu'on puisse réagir à France, on sera vu très mal ici, le plan international, et on n'aura pas une grande force pour continuer à vous résister. Bon, c'est une bonne chose. Mais ce que je suggère, c'est ceci. Avant qu'on puisse aller voir les Rwandais, la communauté internationale et tout, qu'on commence d'abord sur une table ronde entre les Congolais et qu'on sache qui fait quoi et pourquoi il fait quoi. Parce que cela aussi peut nous amener une belle chose. Mais si on commence à appeler directement les étrangers, bon, vous êtes dans votre maison, vous battez avec vos enfants, tout ça, et vous appelez directement votre voisin, venez d'abord nous régler ici dans votre maison. En tout moment, il va vous trouver être trop faible.
Oui, donc.
Mais on pourrait d'abord régler les problèmes internes pour continuer avec les problèmes externes. Vous savez que tout cela est lié au niveau des élections, monsieur le journaliste. Parce que quand on a vu qu'il y a, il y a des problèmes qui se sont passés pendant les élections et il y a manqué même de légitimité dans les chefs de certaines autorités, alors il n'y aura pas grand-chose parce que c'est nous-mêmes qui allions d'ailleurs nous lever pour mettre fin à cette histoire. Vous verrez si je peux encore vous rappeler.
Oui, Cosma, nous avons un nombre important. Cosma, merci. Nous nous retenons, en tout cas, par rapport à vos propos. Vous proposez une table ronde qui sera uniquement congolaise, que les Congolais se retrouvent autour d'une même table pour discuter des questions de fond, pour pouvoir amener la paix dans cette partie du pays. Merci, Cosma, d'avoir appelé le Kisangani. Pierre, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, Roger.
Oui, comment réagissez-vous par rapport à cet appel de la Belgique?
Ok. Finalement, on va négocier combien de fois avec le Rwanda? Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore compris comment évolue cette guerre. Je vois, il y a un problème de gouvernance internationale ou occidentale qui veut morceler ce pays. C'est que ce gouvernement, c'est de laisser cette guerre-là évoluer comme ça. Il serait pire qu'on laisse cette partie être dirigée par le Rwanda, c'est fini. Et après ça, on n'a pas nous aussi ici au Katanga. Hein.
Voilà. Ben voilà. Alors, Pierre, nous retenons que vous émettez d'inquiétude quant à l'organisation de ces dialogues. Vous dites combien de fois allons-nous négocier avec le Rwanda. C'est vrai, ça vient contredit peut-être le propos de Cosma qui tient à ce qu'il y ait une table ronde, mais en amont, il faudrait déjà déceler des points qui seront à l'ordre du jour. Nous avons également des auditeurs qui ont réagi au travers de notre page Facebook. Emmanuel Thioma, qui est à Goma, qui dit « Le dialogue en faveur de qui ?» Souvenez-vous bien, quand est-ce que les dialogues ont commencé? Depuis 1998, à l'époque du RCD Goma, jusqu'à nos jours, c'est toujours le Rwanda derrière le rebelle à l'est pour l'exploitation des ressources du sous-sol. Un Ngongé Socrate, qui est à Kalemi, dit « Comment va-t-on dialoguer avec quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître sa complicité ?» Moi, je pense que notre gouvernement doit s'engager dans une guerre et poursuivre les assassins partout où ils pourront se réfugier. René Ilunda, je citais l'idée de l'ONG, la Voix des Sans-Voix, l'heure n'est plus au dialogue, car tout le monde se rend compte que c'est le Rwanda qui soutient les milices. Nous avons en ligne le professeur Dominique Welt, qui est conseiller scientifique au Centre d'appui en politologie de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres, des inquiétudes. Cosma qui parle d'une table ronde et Pierre qui insiste sur la énième fois qu'on demande encore à la RDC d'organiser le dialogue. Comment réagissez-vous, professeur?
Mais écoutez, je pense que sur la première intervention de votre auditeur et sur la table ronde d'abord congolaise avant de d'aller plus loin, je pense que c'est évidemment une idée assez intéressante. Maintenant, il y a une autorité publique qui a été mise en place après les élections du mois de novembre en RDC. Je pense que le gouvernement de Monsieur Matata doit pouvoir se saisir, et d'ailleurs il s'est encore saisi de la question il y a deux jours à l'Assemblée nationale. Oui, on peut imaginer évidemment une table ronde et un dialogue intra-congolais avant d'aller plus loin. Maintenant, moi je pense que il y a l'urgence. Hein. Je voyais encore 30 000 personnes qui ont été déplacées vers l'Ouganda il y a deux jours, les combats qui continuent, les villes qui tombent les unes après les autres, qui sont reprises, et donc l'urgence me dit que moi je pense qu'il faut maintenant qu'il y ait une intervention de la communauté internationale qui permette de pouvoir faire cesser ces combats. Et cette intervention, je pense qu'en effet, comme le disait votre deuxième auditeur, ne doit plus uniquement se centrer sur un dialogue entre Kigali et Kinshasa. Je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant des pressions internationales sur le Rwanda, afin que, puisque le Conseil de sécurité, dans son fameux rapport, et moi j'ai lu le rapport, il est vraiment alarmant et vraiment interpellant, il y a des preuves concrètes que le Rwanda, aujourd'hui, est derrière les rebelles, et notamment le M23. Donc, on peut évidemment, il faut continuer le dialogue, mais moi je pense qu'il faut maintenant aller plus loin et qu'il faut protéger les populations civiles qui sont les premières victimes, évidemment, de ce conflit qui n'en finit pas.
Oui, professeur, il faut définir le plan, le cadre, les parties à indiquer à y prendre part, le préparatif, la date, etc., etc. Parce que là, finalement, rien n'est dit et en tout temps, la situation continue à devenir très préoccupante sur le terrain.
La situation est évidemment très préoccupante sur le terrain, et moi je pense que en termes de calendrier, il faut agir très rapidement au niveau du Conseil de sécurité et faire en sorte que les États qui sont amis avec le Rwanda, et moi je ne veux pas du tout minimiser la proposition de M. Renders, mais on sait quand même très bien que le dialogue entre Bruxelles et Kigali n'est pas des meilleurs. Et donc est-ce que c'est vraiment la Belgique aujourd'hui qui a les moyens de pouvoir faire pression sur M. Kagame et sur Kigali, alors qu'il y a d'autres États qui sont notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, je pense évidemment aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui eux ont des contacts avec le Rwanda, qui sont un peu plus solides et un peu plus, dont les liens sont plus serrés, et qui ont sans doute, avec ces contacts et ces liens un peu plus serrés, mais qui ont évidemment une capacité de persuasion et de pression sur Kigali, par rapport à la situation aujourd'hui à l'est de la RDC.
Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Oui, comment réagissez-vous par rapport à l'appel de Bruxelles?
Bon, je crois que faut se rappeler de l'histoire. En 1998, RDC, c'est-à-dire commencé son aventure, le Rwanda avait, l'opération avait commencé le 2 août 1998, et le Rwanda avait reçu son implication au mois de novembre, c'est-à-dire après avoir été en plein Zaïre à 10 ou plus au-delà de 1700 km. Et aujourd'hui, le Rwanda garde cette situation. Je crois que comme elle ne l'est pas comprendre, c'est impliqué, ça ne sert à rien d'aller en négociation. Parce que ceux qui sont au pouvoir et qui sont en vie avec l'ancien HTL, aujourd'hui, il y a un comportement difficile. La Belgique même, un pays génocide au Rwanda, qui a autorisé les Rwandais, qui ont bien traversé la frontière du Zaïre en état armé pour organiser l'attaque des pays. Nous pensons que le gouvernement congolais, avec toute opposition, avec une majestueuse, toute opposition extra-parlementaire, parlementaire, et même si on peut se dire dans sa dynamique, il n'y a pas États et les autres pays. Nous n'aurons pas fait de choses parce que nous n'avons pas créé des relations diplomatiques entre la force diplomatique des Rwandais par rapport à cet État. Nous sommes dans un État très affaibli. Les Angolais sont d'abord attaqués par rapport à la compagnie. Les Américains, tous ces pays qui nous entourent, ont des possessions dans notre pays. Nous sommes dans une situation où nous négocions avec un État à genoux. Nous devons nous lever tous, enfin, nous devons être tous unis contre ce pays. Il faut bouleverser le gouvernement, notre agent, il faut le faire pour trouver un accord avec nos enfants.
Merci beaucoup Ernest, bonjour à tous ceux qui nous suivent à Matadi. Nous tournons du côté de Guémena, Étienne, vous êtes là, bonjour Étienne. Voilà, Étienne n'est plus en ligne, nous allons lire également quelques réactions, surtout celle de Mathieu Walley, qui dit « Le dialogue et le choix dévolu pour régler un différend, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne lâchera jamais aussi longtemps que le gouvernement congolais ne prend pas une solution durable et non des solutions partielles de négociation en négociation, de dialogue en dialogue. Le gouvernement doit se montrer plus responsable s'il s'agit d'un dialogue que les deux gouvernements parlent carte sur table et trouvent une solution durable. Professeur Dominique, comment réagissez-vous également par rapport à cette réaction de Ernest qui émet quand même plusieurs inquiétudes quant à l'organisation de ce dialogue?
Mais oui, mais moi je partage tout à fait son inquiétude dans le sens où il est évident que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il y a une forme de dialogue. Alors on a connu les péripéties évidemment depuis 98 dans la région. Et donc c'est clair que redemander un dialogue entre le Rwanda et la RDC, entre Kigali et Kinshasa, c'est, je pense, une idée sage, mais qui ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a eu tellement de tentatives de dialogue entre le Rwanda et la RDC, et je pense honnêtement que la RDC a été à chaque fois de bonnes intentions et plutôt fair play dans cette volonté de dialoguer avec son voisin, parce que de toute façon, les deux pays sont condamnés à vivre l'un à côté de l'autre. On ne peut pas ni en éliminer un, ni en éliminer l'autre. Et donc, il va falloir de toute façon que les deux pays continuent à cohabiter ensemble, et surtout, il va falloir maintenant que la paix revienne. Et pour ça, moi je pense qu'en effet, le dialogue ne suffit plus aujourd'hui, même si c'est une option qu'il ne faut pas exclure, puisqu'on ne peut pas faire uniquement le rapport de force et se relancer dans une guerre régionale entre les deux pays, qui ne ferait qu'encore plus affaiblir la population et les populations civiles, avec une issue incertaine de ce conflit, si le conflit devait reprendre entre les deux pays. Donc, dialogue, oui, mais rapport de force, alors je pense que moi, le rapport de force doit se faire militairement, dans le sens où la communauté internationale a le devoir d'accompagner la RDC dans le renforcement de ses forces armées. Et là, je pense qu'il y a eu quand même une erreur magistrale de la communauté internationale qui ne s'est pas mise à côté de la RDC dans la réforme et dans la formation et l'équipement des forces armées de la RDC. On a vu quelques tentatives, notamment par la Belgique, de formation de quelques bataillons, mais on sait bien que ça n'a pas été couronné de succès important et que la communauté internationale est toujours restée relativement timide par rapport à l'accompagnement des forces armées de la RDC, qui reste une armée d'un État démocratique. Et donc, on ne doit pas avoir peur de vouloir renforcer la coopération militaire avec les forces armées de la RDC. Elles en ont besoin, ces forces-là, d'un renforcement, d'un coaching, d'une formation, de l'équipement par la communauté internationale.
Oui,
mais de nouveau, la solution militaire n'est pas évidemment la solution idéale. Par contre, je pense que renforcer les FARDC par la communauté internationale serait une bonne idée. Mais je pense que c'est surtout au travers de pressions politiques avec les amis du Rwanda, je le répète, qu'on va pouvoir éventuellement faire évoluer Kigali dans sa position.
Voilà, Dr. Richard est à Kinshasa. Il a sûrement une question à vous poser, professeur Dominique. Dr. Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour JR, bonjour professeur. Je suis heureux.
Oui, bonjour.
Bonjour. Dans ce travail du professeur, sortir le mot de rapport de force, je dis dialogue. Alors, je voudrais dire aux Congolais de ne pas être amnésiques dans ce conflit Rwanda-RDC. Pourquoi? Je donne le fait de l'histoire, hein, la lecture de l'histoire.
Oui.
En 97, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est assis au poste de président, un homme courageux est allé le voir, bien qu'on l'avait empêché, pour lui dire « Paye les Rwandais leur service et dites-leur de rentrer chez eux. » C'était M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les gens l'avaient pris pour un fou. Alors, aujourd'hui, avec l'émiettement de la FDEL qui a donné toutes les rébellions à l'Est là, même les rébellions qui ont enterré les femmes vivantes et la communauté internationale a fermé la bouche, nous sommes en train d'assister à l'autolibération du sujet qui est la RDC par ses dirigeants devant le maître qui avait imposé la FDEL à Kinshasa. N'est-ce pas ça la bonne lecture? Parce qu'on dit maintenant pour le rapport de force que le Rwanda est surarmé, le Congo ne saura rien, aller à la table de négociation pour payer les services qui avaient amené l'AFDEL au pouvoir. Il n'y a pas longtemps, on a fêté l'entrée de l'AFDEL dans le pays ici. Même si on est passé par les élections, pourquoi on avait dit que c'était la continuité de l'AFDEL? C'est ça le problème. Donc, le sujet qui est le Congo est en train de chercher à se libérer du maître qui est le Rwanda. Ne nous poussez pas à dire qui téléphone ici pour demander le café à certaines autorités. Merci beaucoup.
Voilà, merci docteur Richard Sengui. Nous allons accorder la parole à notre invité, professeur Dominique Welch, tout à l'heure. Le temps de prendre Sengui qui est toujours à Kinshasa. Sengui, bonjour.
Oui, bonjour M. Lesmet et bonjour Radio Okapi.
Et comment réagissez-vous? Êtes-vous favorable pour les dialogues ou également vous proposez comme la voix des sans-voix une condamnation pure et simple du Rwanda?
Ok, merci de m'avoir associé pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, je ne souhaite pas les dialogues, mais si on avait une armée forte, on devait justement riposter en tant qu'homme, en tant qu'un État démocratique et un État responsable. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'il y a des multiples dialogues qui ont été déjà organisés, des multiples accords, et c'est ça qu'on signe, c'est qu'on viole toujours. Alors, à quoi bon? Parce que quand même, la force aussi, quelquefois, ça peut résoudre le problème, parce que cette crise est l'un des maîtres. C'est une négligence de notre gouvernement. Puisque le gouvernement prend toujours les choses donc, à la légère. Alors, ça commence là-bas, non, c'est une fraction de petits rebelles, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors que, quand quelqu'un commence une histoire pareille, c'est-à-dire il y a des sous-bassements. Alors, maintenant, notre problème actuel, c'est que le gouvernement doit prendre quand même à s'assurer, puisque le problème, soit c'est la faillite au niveau de l'armée. L'armée n'est pas bien formée. Il y a du désordre là-dedans. Comment, dans un État démocratique, dans un État où vous faites 52 ans, quand vous organisez la réunion de sécurité, vous devez avoir les ambassadeurs de tel autre pays, les étrangers, dans la sécurité d'un pays. Alors, donc, le problème pour moi, je trouve seulement que le dialogue est fait à côté. Ça, c'est mon point de vue, excusez-moi.
Le dialogue, c'est à
côté. Le gouvernement s'assume à tout ça dehors. C'est.
Voilà, merci Sengui. Avant de lire quelques mails, nous tournons du côté du professeur Dominique Welch. Vous avez suivi Dr Richard qui a soutenu d'ailleurs vos propos quand vous avez évoqué le rapport des Fox. Sengui dit, ben voilà, notre armée est en processus de réforme. Voilà, on n'est pas à même. C'est vrai qu'il faut aller combattre et puis buter les mutins dehors. Mais par rapport à la réforme de l'armée, est-ce que qu'est-ce que vous allez dire à nos auditeurs qui soutiennent disons la voie des forces?
Mais moi je pense que en effet un des sujets dont la communauté internationale devrait se préoccuper un peu plus, c'est justement le renforcement des forces armées de la RDC, et ce renforcement il doit se faire de manière transparente évidemment et large, et intense, dans le sens où actuellement, c'est vrai que les forces armées sont dans une situation qui est quand même critique et délicate. Ils ne sont pas aujourd'hui véritablement outillés et en capacité de pouvoir... alors moi, je ne crois pas qu'il faut mettre les mutins dehors, qu'il faut les muter en dehors de la RDC. Je pense qu'il faut les arrêter et les faire juger position congolaise. Et pour ça, oui, il faut absolument qu'il y ait un renforcement des forces armées de la RDC par la communauté internationale, avec l'appui de la MONUSCO qui est quand même là-bas. N'oublions pas que le Pakistan, qui a les forces les plus importantes dans l'est de la RDC au niveau des casques bleus de la MONUSCO, le Pakistan est actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il siège là pour 2 ans, et je pense que avec le Pakistan, avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il doit y avoir une prise en considération de ce renforcement des capacités de l'armée congolaise.
Voilà, avant de prendre une deuxième série des auditeurs, nous rappelons à vous, ces auditeurs, que vous pouvez également participer à cette émission en composant les 081-890-63-15. Vous pouvez aussi poster vos commentaires sur notre page Facebook et vous avez également la possibilité de les faire à pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50. Hors de Kinshasa, le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi. Nous avons quelques réactions. Serge Kiambalo qui dit « Mais qui va nous apporter le dialogue ? Pas d'importance, il faut réagir car on vient de connaître notre vrai problème. On passe du dialogue et pourtant les gens sont en train de mourir. » Arlette Marcoiné au Kasaï Oriental dit « Il y a plusieurs années que la sécurité à l'est du pays continue. Ce dialogue ne sert à rien. Quelle histoire la jeunesse congolaise va-t-elle raconter aux générations futures ?» Et Serge Lushika qui est à Likasi, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec qui que ce soit. La Belgique n'a pas de leçons à nous donner car nous sommes indépendants et souverains. Et ça nous permet d'ailleurs de nous rendre également à Likasi où il y a Claude qui est en ligne. Claude, bonjour. Bonjour Claude.
Bonjour monsieur.
Voilà, Claude, comment réagissez-vous?
Moi je suis contre le dialogue monsieur. Ça fait plusieurs années qu'on a toujours dialogué avec les Rwandais. Vous savez, la Belgique ne peut pas nous imposer les dialogues aujourd'hui. Là, je sais en Belgique, les Wallons et les Flamands, quand il y a des conflits, est-ce que nous, les Congolais, on peut les imposer les dialogues? Ce que moi, je demande à notre armée, c'est de continuer à lutter et à combattre ces militaires-là. Parce que qu'est-ce que nous sommes ici chez nous au Congo? Chaque fois que le gouvernement a un programme pour la réhabilitation de notre pays, derrière, il y a toujours des militaires qui veulent toujours une déstabilité. Ce que moi je peux demander à nos autorités, c'est de déclarer aussi la guerre ouvertement avec les Rwandais. Je peux vous donner un exemple facile. Votre voisin, il est là chaque fois toujours pour battre votre enfant, vous venez là toujours pour dialoguer. En tout cas, pour moi aussi au Katanga, je vous dis clairement que nous, on est contre les dialogues.
Merci beaucoup, Claude. Thomas, vous êtes à Kalima, au Maniema. Bonjour, Thomas.
Bonjour, monsieur.
Voilà, disons, quelle est votre position? Êtes-vous favorable pour les dialogues ou vous rejoignez la position de la voix des sans-voix qui demande ou qui invite plutôt la condamnation directe du Rwanda?
Merci beaucoup pour la question, monsieur J.R. Je trouve que l'intervention, les dialogues vient intervenir un peu en retard parce que ce n'est pas aujourd'hui que commence cette instabilité à l'est de notre pays. Notre gouvernement n'a pas été distrait pour ne pas montrer aujourd'hui cette situation stable qui règne en ce côté du pays. La deuxième proposition que je veux dire ici est que je trouve en deuxième position que ça n'apportera rien de changement, d'autant plus profondément que ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence des négociations ici et là. On a été à Lusaka pour l'accord de cessez-le-feu. On a été à Pretoria et à Sansi pour seulement régler la situation de l'Est mais la situation s'amplifie du jour au lendemain. Ce que nous connaissons est que le Rwanda est à la tête d'un nouveau pays pour se partager parce que les deux tribus qui existent dans ce pays n'arrivent pas à s'attendre. C'est pourquoi ils préfèrent se diviser pour ainsi régner dans la région du Nord et du Sud Kiv. Mais au Sud Kiv, on trouve les Warega de Sabunda qui sont forts mais ne sont pas armés, tandis que les Rwandais sont bien armés et bien appuyés matériellement et financièrement par les forces de l'Occident. Donc, le CJR, pour eux aussi, une réaction chaude. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Paul, Thomas, pardon. Là, nous tournons du côté du professeur Dominique, ouais, pour répondre à toutes vos préoccupations. Professeur, vous avez suivi d'ailleurs la dernière intervention de Thomas, qui évoque déjà des cas similaires, des dialogues qui ont été organisés, disons, pour sauver la situation à l'est du pays, mais des dialogues qui sont restés quand même sans succès, où il n'y a pas eu de résultats escomptés selon lui. Et comment répondez-vous à son inquiétude?
Mais écoutez, moi je comprends tout à fait son inquiétude. Je voulais juste faire, tant que si je peux me permettre, une petite réflexion par rapport à ce que votre auditeur disait, mais l'auditeur précédent aussi, sur l'imposition par la Belgique ou la communauté internationale de ce dialogue entre Kinshasa et Kigali. Je pense qu'il ne faut pas travestir les propos et les propositions du ministre des Affaires étrangères belge, M. Renders. Il n'a pas du tout parlé de vouloir imposer aux deux parties le dialogue. Il a fait une offre de service et il a rappelé, en étant de passage à Bujumbura, où il a d'ailleurs eu des contacts avec le président Kabila et avec le premier ministre rwandais, il a simplement rappelé qu'il fallait absolument que le Rwanda se mettent autour de la table pour dialoguer et négocier avec la RDC. Mais il n'a pas dit que la Belgique voulait imposer ce dialogue aux deux parties qui sont actuellement en conflit. Je crois que c'était une
précision.
Pour l'inquiétude de votre auditeur, oui, je comprends très bien. J'ai moi-même participé à la conférence de Goma en 2008, où on avait beaucoup d'espoir sur le dialogue, justement, et sur le retour de la paix dans la région. On a vu qu'il y a eu le programme de stabilisation qui s'est mis en place pour la reconstruction avec le SPAREC. On a vu les plans avec Amanuleo qui ont essayé aussi de vouloir imposer la paix dans la région. Bon, tous ces plans, toutes ces conférences, tous ces dialogues, actuellement, il faut bien reconnaître que ça n'a pas donné d'énormes résultats positifs. Je pense quand même que, de toute façon, par la force des choses et par le fait que les deux pays vont devoir vivre ensemble et cohabiter, je pense que le rapport de force, évidemment, doit être maintenant actionné, mais il ne faut pas, évidemment, mettre de côté le dialogue et la concertation, parce que les deux pays vont devoir se concerter pour le développement de la région. Et une des solutions, on l'a vu en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une des solutions sans doute, mais bien entendu que c'est encore beaucoup trop lent, mais une des solutions, c'est bien entendu l'intégration régionale et le fait que la région des Grands Lacs puisse économiquement, socialement, politiquement, se développer dans une dynamique de reconstruction régionale. Mais penser que chacun va pouvoir, dans son coin, se développer, c'est, je pense, un tout petit peu une utopie. Il faut beaucoup mieux imaginer un développement sous-régional des pays de la région des Grands Lacs qui doivent cohabiter et se développer ensemble.
Mais oui, professeur.
Bien qu'actuellement, on en est encore assez loin.
Voilà, Jean-Paul est à Lubumbashi et Christophe à Kinshasa. Ils attendent depuis un certain temps à pouvoir réagir également. Jean-Paul, vous êtes en ligne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà.
Oui, je vous appelle parce que j'ai suivi les consorts et moi, je vais demander à la Belgique, précisément, de demander à. Au gouvernement de Kinshasa de démissionner au lieu de négocier. Parce que si les gens se sentent irresponsables de résoudre un problème qui sont aujourd'hui des 5 ou 6 ans, ben ils sont des irresponsables.
Oui, en tant que Congolais, que proposez-vous? Parce que vous n'êtes pas favorable au dialogue, non plus vous ne voulez pas de l'appel de la voix des sans-voix qui demande à ce qu'on puisse condamner directement Kigali. Que proposez-vous alors à la place?
Même à la CPI, même à la Cour pénale internationale, le dossier va prendre encore du temps, comme on a dit avec Thomas Lubanga. Il faut demander au gouvernement de Kinshasa de démissionner, de laisser la situation aux hommes qui sont compétents, et de laisser la situation qui se passe à l'est du Congo. Et donner négocier, nous allons avec la CNDP. CNDP quand même à l'Assemblée nationale. Quels sont les résultats? On a trouvé que l'histoire est en train l'est. On ne va pas recommencer la situation de négocier, de négocier. On voulait que Kinshasa démissionne.
Donc, si je comprends bien, Jean-Paul. Oui, s'il vous plaît, Jean-Paul. Si je comprends bien. Voilà, vous craignez. Voilà, si je comprends bien votre inquiétude, tourne autour de cet éternel dialogue, éternel recommencement. On tourne en rond, finalement. La situation continue encore à devenir très, très, très préoccupante à l'est du pays. Merci, Jean-Paul, d'avoir apporté cette contribution. Christophe, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour.
Comment réagissez-vous?
J'aborde la même chose par rapport à la négociation. La grande question est de savoir, on veut négocier sur quoi? Quelles sont les revendications du Rwanda? Est-ce que négocier pour accepter la partition de notre pays? Ou négocier sur quoi exactement? Ça fait des années qu'on trouve d'autres gens qu'on négocie avec les Rwandais et il n'y a aucune solution. Cette négociation aboutit à l'infiltration des Rwandais dans l'armée congolaise. Pour ces gens-là, les Makenga, les Laurent Funga qui se disent congolais, qui sont réellement des Rwandais qui répondent pour Rwanda. Alors comment est-ce qu'on peut négocier dans une situation comme cela où on ne connaît pas l'objet de la négociation? On peut qu'on soit clair, quelles sont les revendications du Rwanda pour qu'on nous aide à la négociation?
Voilà,
on ne voit pas pourquoi il faut négocier.
Oui, merci Christophe. Professeur Dominique, selon vous, quelle doit être la matière à apporter si jamais ce dialogue était accepté par les uns et par les autres? Quel doit être le contenu de ce dialogue, le plan du travail?
Mais écoutez, le plan de travail pour répondre à la question de votre auditeur, alors c'est évidemment sans doute un peu facile, mais il est évident qu'une des revendications du Rwanda par rapport à la RDC, c'est la sécurisation de ses frontières et la présence des FDLR qui sont toujours sur les territoires congolais et qui, je parle bien entendu en me mettant du côté de Kigali et du Rwanda, et qui pour le Rwanda, donc je ne dis pas que je suis d'accord avec cette position-là, mais c'est la position rwandaise, et qui pour le Rwanda menace toujours, donc c'est les FDLR qui sont soutenus par soi-disant la RDC, et bien menace évidemment les frontières du Rwanda. Donc je pense qu'il faut, et c'est vrai que c'est un sujet et c'est un dossier qui traîne maintenant depuis 1994, mais la communauté internationale, notamment avec la MONUSCO et les forces armées congolaises, mais je pense qu'il faut quand même un jour qu'on puisse neutraliser ces VLR une bonne fois pour toutes. Ça, c'est, ça permettrait en tout cas d'enlever un prétexte au Rwanda pour continuer à déstabiliser ou à participer à la déstabilisation de la région avec de la RDC. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le plan de paix, je pense qu'il faut qu'on reparte de ce qui a déjà été fait et donc ne faisons pas table rase du passé et ne recommençons pas avec une page blanche. Il y a de part et d'autre des revendications qui ont été émises à l'occasion des différents dialogues on en a parlé tout à l'heure, qui ont été déjà engagés depuis repartons de la conférence de Goma par exemple, repartons pour voir comment est-ce que rapidement on peut d'une part neutraliser le M23 et les rebelles, les arrêter et les faire juger au Congo. Et puis d'autre part, quel programme de reconstruction et de développement régional les pays concernés sont prêts à mettre en œuvre et à mettre
Oui, professeur Dominique.
Une des manières de pouvoir pacifier la région, ce sera évidemment le contrôle des ressources du pays, des deux Kivus. Un contrôle transparent et effectif de ces ressources minières et autres, et un partage évidemment des richesses au niveau sous-régional. Je pense que un des gages de la paix sera évidemment le fait que la population dans ces régions-là, dans ces deux provinces-là, dans, même si on monte jusqu'en Ituri et en Équateur et au Maniema, il faut absolument que les populations tous tirent profit des richesses sur lesquelles ils sont installés et sur lesquelles ils sont assis pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter le bien-être des populations. Et ça, une fois que la région aura retrouvé le chemin du développement, eh bien, les gens préféreront retourner à leurs activités principales et traditionnelles plutôt que de s'engager dans des mouvements de rébellion.
Oui, il y a Jacques Moulakiroua, professeur, qui dit « Nous sommes menacés par les crépitements des armes depuis longtemps. Plusieurs d'entre nous sont orphelins, non scolarisés, handicapés, traumatisés, malnutris, dépourvus de tous les biens matériels et culturels à cause de cette souffrance insupportable des guerres dont nous ne savions pas l'origine. » Cette fois-ci, l'auteur est connu et je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure, selon l'auditeur. Il faut directement condamner le Rwanda, qui est l'auteur de tout ce conflit à l'Est. Il y a Alain Paloukou qui dit « Rwanda et RDC sont les deux invités. Nous savons que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Nous savons que les Congolais ne sont pas assez soutenus par cette communauté internationale. » Raison pour laquelle vous avez le retard avec lequel le rapport, deux ans après, vous que le rapport de l'ONU est arrivé pratiquement tardivement. Voilà, donc nous allons avoir quand même votre point de vue, professeur, par rapport à ces deux réactions.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec il est évident qu'il y a deux poids, deux mesures au niveau de la communauté internationale. Alors, on me dira, bien entendu, du côté de la communauté internationale, que les efforts, avec notamment le déploiement de la MONUSCO en République démocratique du Congo, les efforts de la communauté internationale sont énormes pour renforcer la RDC dans son état de droit et dans sa volonté de pouvoir se développer pacifiquement, notamment vis-à-vis de ses voisins. Mais il est vrai que au niveau de la communauté internationale, il y a eu un soutien manifeste, notamment des grandes puissances anglo-saxonnes vis-à-vis du Rwanda, plus qu'il y a eu le soutien vis-à-vis de la RDC. Et ça, je pense qu'il va falloir que la communauté internationale, maintenant, rétablisse un peu l'équilibre entre le soutien qui est là presque inconditionnel au Rwanda, dont certains même grands dirigeants de ce monde citent en exemple le développement et le déploiement du Rwanda depuis l'arrivée de M. Kagame. Moi, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus prudent, il faut être un peu plus objectif, en tout cas, un peu plus neutre par rapport à ça, et voir que, aujourd'hui, le Rwanda, s'il se développe comme il se développe, mais on le sait quand même bien, c'est grâce notamment aux richesses qui se trouvent sur le sol congolais, et dans le sol congolais. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Donc oui, je pense qu'il faut que la communauté change un peu son fusil d'épaule. Et moi, je pense que nous devons, en effet, condamner, puisqu'on a le rapport. C'est-à-dire, c'est un rapport de l'ONU, ce n'est pas non plus un rapport qui serait falsifié ou qui serait subjectif de d'une partie des deux qui sont en conflit. C'est un rapport tout à fait objectif qui a été fait par des experts de l'ONU. On a vu les autres rapports aussi de l'ONU sur l'implication des grandes multinationales dans l'exploitation des richesses et des ressources minières, notamment en RDC. On les a pointés du doigt, mais il n'y a quand même rien qui a fortement changé. Et il faut en effet aussi se poser la question, à qui profite le crime, qui a intérêt à ce que la région ne soit pas stable. Moi, je pense qu'il y a encore des multinationales qui, dans le chaos actuel, tirent un profit tout à fait honteux du chaos et de l'instabilité pour pouvoir véritablement s'enrichir sur le dos de la population.
Professeur Dominique, nous attendons les derniers quarts d'heure de cette émission. Nous allons encore accorder la parole à quelques auditeurs, en rappelant aussi à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre et qui peuvent nous faire parvenir leurs préoccupations également au 081 890 63 15, et ils ont également la possibilité de faire des analyses en déposant bien entendu leurs commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.fr.
Nous allons lire rapidement quelques réactions que nous avons encore tirées de notre page Facebook. Wester Muganda qui dit « C'est honteux de voir que le gouvernement congolais n'arrive jamais à poursuivre tous ses agresseurs jusqu'au bout. Si le gouvernement n'était pas complice, fallait-il attendre que la rébellion lance l'offensive pour passer à l'attaque? Nous en avons marre de la guerre et plus question de dialogue, que le gouvernement congolais montre aussi de quoi il est capable. » Jules Lacalemi, comme il y aura le dialoge entre ces deux États? C'est très bien, mais nous voulons que les mesures soient prises pour l'Est du pays et que la paix et la sécurité puissent régner comme dans les temps. Fisson Jacques Mastaki de Goma, la démarche de la Belgique et la communauté internationale est à saluer, mais il n'y a pas d'importance lorsque le dialogue n'apportera aucun consensus et nous continuons à souffrir du jour au lendemain. Mwamba Noé à Kinshasa, je trouve pour ma part qu'il y a une main noire dans ces conflits et le dialogue prôné ne sera que théorique et les autorités congolaises sont au courant de ce qui se passe réellement à l'Est. Voilà quelques réactions des auditeurs que nous avons tirées sur notre page Facebook. Suzy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Voilà, Suzy, comment réagissez-vous?
Je voudrais d'abord commencer en posant une question. Je me demande pourquoi le Rwanda est critiqué par la communauté internationale, notamment les États-Unis, la Belgique, la France, le Royaume-Uni. Je me demande ce qu'il y a de particulier, le Rwanda, ce qu'il offre à la communauté internationale de particulier pour qu'il soit suscité de la sorte. Je ne sais pas si cette communauté internationale, en guillemets, se rend compte de toutes les réalités que les populations de l'Est subissent. Il y en a certains qui ont modifié leur mode de vie carrément en fonction du Rwanda. Ça ne peut pas continuer. Je ne sais pas. Je crois que les autorités du Congo doivent se rendre compte que le respect de notre territoire, de nos frontières, doit s'acquérir par la force. Il est vraiment temps qu'on mette au dialogue, à susciter le Rwanda. C'est vrai, on a trop parlé avec le Rwanda et on a fait trop de conflits.
Vous proposez la voie de force, que notre armée se prépare pour ça?
Oui, et encore qu'il y ait une armée assez solide pour tenir tête au Rwanda, à la communauté internationale qui soutient le Rwanda.
Merci Suzy, vous avez appelé de Kinshasa. Alain, vous êtes à Kindu. Bonjour Alain.
Bonjour, c'est Alain.
Oui, maître Alain. Voilà. Oui. Êtes-vous favorable au dialogue ou carrément vous proposez, comme la voix des sans voix, l'option de condamnation directe du Rwanda?
Non, moi je suis contre vraiment le dialogue, parce que nous en avons assez, ça fait longtemps que les Rwanda justifient à notre pays nous autres. Ma proposition à moi est que le gouvernement soit politiquement, nous sommes prêts, nous Congolais, nous sommes prêts même à les prêts, à porter les amulettes et à les faire les Rwanda. Pour toutes et tous, nos frères ont souffert beaucoup, et nous aussi nous continuons à mener une vie misérable, la communauté internationale, c'est quand elle dévoile tout ce qui se passe. D'ailleurs, pour le gouvernement, ils viennent de changer tout à l'heure là-bas, et les généraux qui étaient là-bas, on a encore un ou deux, pour les connaître, un Congolais d'origine des c'est ça, non, c'est ça que je vous dis, c'est d'aller. Nous connaissons tout ce qui se passe. Elle est la vie du Congolais, nous sommes mécontents, et nous disons non, et nous sommes prêts à porter les amulettes, tel qu'on comme c'était une fois.
Alors une précision Alain, parce que ce sont vos propos, nous retenons que c'est vrai, comme le Conseil supérieur de la Défense venait d'ailleurs d'opérer des changements au niveau de l'armée, on a radié 14 officiers, vous venez d'évoquer, on dit à la tête, on a remplacé un tout petit, et ça n'engage que vous, est-ce que vous avez des preuves?
Non, nous ne sais pas, nous avons des frères qui sont à Goma, parce que là-bas, ils nous racontent ce qui se passe à Goma. Il y a marche des étudiants. elle est encore pour ça. C'est pourquoi il marche contre ce qui s'est passé autour de Goma.
Voilà, alors Alain, merci d'avoir appelé les Kindou et nous saluons tous les auditeurs qui sont à Kindou. Professeur Dominique, ouais, vous êtes notre invité. C'est vrai que on peut se permettre quand même de le dire, la colère monte peut-être d'un cran du côté des auditeurs qui proposent d'avoir de force, c'est-à-dire il faut que l'armée puisse contre-attaquer pour, disons, terminer cette histoire et la détermination aussi des certains Congolais. C'est vrai que vous dites, bon, les dialogues, ben, avec quel ordre du jour, il y a pas mal de choses, mais comment réagissez-vous par rapport à ces interventions?
Mais écoutez, moi je comprends bien l'exaspération de vos auditeurs face à la situation qui n'évolue absolument pas. Maintenant, je voudrais juste, pour faire une petite comparaison, vous dire en effet, on peut prendre l'option militaire et l'option de la violence et de la reprise de véritables combats entre les deux armées. Maintenant, on voit bien, par exemple, dans une région du monde qui, depuis 60 ans, essayer aussi de retrouver la paix, c'est évidemment entre Israël et la Palestine. On voit bien que l'option militaire qui a été prise et par les Israéliens avec l'occupation, les colonies qu'ils ont, qu'ils continuent de construire, le mur qu'ils ont construit entre la Palestine et Israël, mais on voit bien que cette option-là n'aboutit pas non plus à une résolution du conflit. Au contraire, le conflit s'enlise encore un peu plus. Donc, oui, mais attention à ce que actionner le rapport de force, notamment en termes militaires, ne risque pas d'aboutir, en tout cas à très court terme, à une résolution du conflit. Au contraire, ça va, je pense, encore affaiblir et encore meurtrir un peu plus les populations civiles. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux parler d'un rapport de force en termes diplomatiques, d'implication beaucoup plus forte de la communauté internationale, encore plus forte de la communauté internationale dans la région, et, je pense, un changement d'attitude par rapport à Kigali et au Rwanda, où, en effet, votre auditrice posait la question de savoir pourquoi est-ce que la communauté internationale soutient le Rwanda aujourd'hui. Je pense plusieurs réponses, évidemment, à ce soutien presque inconditionnel de la communauté internationale, ou d'une partie de la communauté internationale, parce que je pense que la Belgique n'est pas tout à fait bien placée par rapport au Rwanda, parce que justement, elle ose un peu dire tout haut ce que d'autres pensent souvent.
Voilà, pour ça, Dominique,
le soutien et ce soutien du Rwanda pose question aujourd'hui, doit être révisé. Alors pourquoi? Parce que les États-Unis et surtout les puissances anglo-saxonnes avec le Royaume-Uni soutiennent comme ça le Rwanda. Il y a, je pense, comme on l'a
Dominique, on va conclure avec vous, professeur. S'il vous plaît, professeur, on va conclure avec vous. Il est temps pour nous, d'ailleurs, de lire, disons, les réactions des auditeurs, en tout cas des réactions très, très, très pertinentes, parce que ça, nous avons tiré de votre page Facebook. Il y a Guilin qui est à Kiwanja, et aussi Thierry qui est à Kiwanja également, donc à Rutshuru. Guilin dit ceci: avant tout, je tiens à remercier l'Éternel qui m'a sauvé pour la journée de dimanche, tout en condamnant nos unités pour les actes de pillage qu'ils ont perpétré chez nous à Kiwanja. La situation est très critique. Nous sommes déjà sous la commande du M23 et nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes déçus de notre pays et nous attendons la puissance divine pour la libération, tout en se soumettant d'abord aux ordres de Dieu, donc que ce Éternel nous fasse miséricorde. Thierry dit: moi je vois que la sécurité de l'Est, la République est causée par certaines de nos autorités en complicité avec certains rebelles, car avec toute cette expérience de guerre que je viens de vivre, les négociations avec les M23 est une pure distraction. Voilà, donc merci à vous tous ici qui nous avez écrit par votre page Facebook. Nous allons terminer avec vous, professeur Dominique. Donc juste quelques mots de conclusion. Donc vous avez vu Guilin qui est intervenu. Que répondez-vous à Guilin et à Thierry?
Lumière,
juste rapidement, en tant que grande conclusion,
par ce soutien au Rwanda. Voilà un peu Et donc, oui, je suis bien d'accord sur l'exaspération de vos auditeurs. Maintenant, attention à ce que la solution militaire risque de d'enliser le conflit encore un peu plus que de le résoudre. Mais, je pense qu'il faut quand même, je le disais tout à l'heure, renforcer la coopération militaire avec le Congo, avec la RDC, et faire en sorte que les RDC soient en mesure de pouvoir neutraliser, notamment, tous les rebelles qui ont déserté, qui ont quitté les rangs de l'armée congolaise.
Voilà, professeur.
Et qui aujourd'hui créent le désordre. Et,
voilà, professeur Dominique. Merci professeur. Nous rappelons que vous êtes conseiller scientifique au Centre d'appui en politologie de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette question sur la situation de l'Est en République démocratique du Congo.
Allô? 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 Il ne répond pas.
Merci à Pierrot, à Titi Poutou et à Lengoy qui ont réalisé cette émission. Jérôme Guimbo était à la présentation sous la supervision de Nicole Lata. Merci à tous d'avoir été des nôtres et merci à vous également d'avoir participé à cette émission par le mail sur notre page Facebook. Vous pouvez les réécouter sur notre site web www.radiocapi.net. Demain, Parole aux auditeurs consacrera un débat autour de la révision à la baisse du budget 2012 au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse @radiocapi.net vos commentaires et préoccupations. Et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook avec une seule question. Que pensez-vous de cette révision ?